le vol 752 de la Ukraine International Airlines là, qui s'est écrasé mardi à Téhéran, en Iran, qui a coûté la vie à 176 personnes, dont 65 Canadiens. Ben, ce vol s'est écrasé parce qu'il a été abattu par un missile iranien, selon ce que rapporte le magazine américain Newsweek, qui cite trois sources du renseignement américain et irakien. Alors, ce n'est pas une nouvelle qui est encore confirmée par les autorités ukrainiennes. C'est un vol de la Ukraine International Airlines. Ce n'est pas une information qui est confirmée également par le gouvernement iranien. Donc, ce n'est pas encore une information officielle. Mais Newsweek, c'est quand même pas n'importe quoi. Et là, pour comprendre un petit peu la thèse, enfin plus que la thèse, l'information qui est rapportée par le Newsweek, on va se tourner vers un spécialiste des questions internationales, des questions stratégiques, Charles-Philippe David, donc qui est le président de l'Observatoire sur les États-Unis et qui est le fondateur de la chaire Raoul d'Endurant. Charles-Philippe David, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Bon, alors, évidemment, Charles-Philippe, j'ai pris la peine là de mettre les nuances qui s'imposent. Oui. Il faut se garder de conclure que cette information-là est confirmée.
Oui.
Mais résumez-nous ce que Newsweek nous rapporte d'abord.
Ben, écoutez, Newsweek, au fond, l'article n'est pas bien long. Tout le monde peut le lire en ligne, facile d'accès. Affirme que selon des sources sûres, donc là, Bernard, déjà, on ne sait pas quelles sont les sources, si je peux me permettre.
Mm-hmm.
Mais on va croire peut-être qu'ils aient raison. Alors, leurs sources confirmeraient que le fameux soir où il y a eu les tirs, vous vous en souvenez, de missiles portés intermédiaires depuis la frontière iranienne vers les cibles des deux bases militaires en Irak où logent, entre autres, bien sûr, les Américains. On se souvient de cette attaque-là à laquelle Trump a réagi, ou enfin... que l'un de ces missiles utilisés, ou alors, si je comprends bien, un missile de défense anti-aérien aurait été utilisé, certainement par erreur, en visant cet avion par erreur. Ça me rappelle vraiment le fameux, vous vous souvenez, l'avion russe qui a été abattu, l'avion russe qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine, là.
Oui,
enfin,
exact.
Ou l'avion qui a été, non, c'est pas l'avion russe, l'avion néerlandais, où il y a beaucoup de Néerlandais qui sont morts d'Hollandais il y a de cela plusieurs années.
Oui.
Ça me rappelle un peu le même cas de figure. Donc, ce missile de défense anti-aérienne, qui est beaucoup plus de courte portée d'ailleurs, est abattu l'avion ukrainien au-dessus de l'Iran, semble pour Newsweek être, pour l'instant, le scénario ou l'événement le plus probant.
Oui, voilà.
Qui explique pourquoi l'avion s'est fracassé de cette manière aussi rapidement, a été détruit aussi rapidement, sans avertissement, sans appel de la part du pilote qui habituellement fait un mayday et puis... on a peut-être un peu plus d'informations à ce moment-là.
Mais vous avez raison, il n'y a pas eu de mayday. Ça s'est passé quelques minutes après le décollage. Des témoins ont vu l'avion en feu avant l'écrasement. Donc...
Alors, moi, j'ajouterais à ça que probablement, mais là, j'y vais pas avec la connaissance du cas en particulier, parce qu'on a des sources, admettez, vraiment très, très, très
prétenues
actuellement.
Oui,
là.
Oui, oui.
Mais ça peut être aussi que la défense anti-aérienne iranienne ait peut-être mal compris que cet avion-là n'était pas un avion militaire ou un bombardier ou un avion qui attaque l'Iran et qui aurait été donc descendu parce que les officiers croyaient que l'Iran était sous attaque américaine. Ça peut être un scénario.
Ben oui.
Ou alors, c'est l'un de ces 20 missiles, parce que ça, Newsweek affirme que c'est pas le cas maintenant. Ça pourrait être le cas, quand ça, c'est vrai, que l'un des 20 missiles ait touché cet avion-là. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que ces missiles-là originaient de la frontière iranienne. Donc, pas du tout depuis Téhéran, là.
Oui, 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 oui.
Alors que, comme vous l'avez dit il y a une minute, l'arc d'ascension de cet avion, de l'avion Ukraine International, n'était pas du tout au-dessus de la frontière entre l'Iran et l'Irak. Alors, ça me paraît bizarre que... Ça serait étrange que ce soit l'un de ces fameux 20 missiles, à moins que l'un d'eux soit provenu d'ailleurs,
oui,
que ce que nous croyons être la base à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Alors, écoutez, on est encore dans l'incertitude, mais...
Mais je vais vous dire, Charles-Philippe, évidemment, on espère que c'est une erreur. En tout cas, c'est ce que Newsweek rapporte. Newsweek dit, les Iraniens, ce serait un missile de fabrication russe tiré par un système donc de défense aérienne iranien qui aurait abattu par erreur l'avion. Bon, mettons que c'est une erreur, OK? Parce que je ne veux pas aller plus loin que ça. Là, on n'a pas assez d'informations sérieuses là-dessus pour aller plus loin, pour envisager, mettons, un acte délibéré. Mais restons...
Je ne pense pas que ce soit un acte délibéré. Vraiment, je crois à peu près pas ça.
Bon, d'autant plus qu'il faut le rappeler, là, la majorité des victimes étaient iraniennes. Bon, plusieurs d'entre elles étaient canado-iraniennes, c'est vrai, mais la majorité était quand même iranienne, là, suivie, donc, c'est le plus grand nombre de victimes, hein, c'était des Iraniens. Perfect. Et le deuxième groupe le plus touché, c'était des Canadiens. Et là, j'allais vous poser la question, Charles-Philippe, juste avant de vous laisser, dans quelle position ça place le Canada, ça, si effectivement c'est un missile iranien qui a descendu cet avion-là? Je veux dire, le Canada, qui demande déjà de pouvoir participer à l'enquête sur l'écrasement, a une sacrée bonne raison de dire, là, vous devez vraiment permettre à nos enquêteurs d'aller sur place. On s'entend là-dessus?
Ah, c'est très clair. C'est une catastrophe pour, même, je dirais, la diplomatie iranienne. Parce que l'Iran, dans tout ça, imaginez un peu ce que, si ça se confirme, puis même avant que ce soit confirmé, je peux très bien imaginer l'administration de Trump et le président lui-même déjà, s'il ne le fait pas au moment où on se parle, dénoncer l'Iran à tout rompre. Donc, c'est sûr que l'image de l'Iran là, va en prendre pour son rhume, même si c'est une erreur, si c'est délibéré, évidemment, c'est évident, mais même si c'est une erreur, c'est quasiment impardonnable de la part des autorités iraniennes. D'avoir permis, d'ailleurs, des gens en passant, Bernard, à des avions de décoller au même moment où des missiles sont tirés vers l'Irak, je trouve que c'était pour le moins périlleux.
Comme oui, on peut dire.
Si vous permettez, ça, je trouve que ça, c'est quand même bizarre parce que au même moment, l'autorité fédérale d'aviation américaine, vous voyez, a interdit le survol de cette zone-là par les avions américains. Puis ensuite, les Européens ont suivi avec les compagnies aériennes européennes. Tout le monde sait bien qu'on se promène pas avec un avion civil dans une zone de guerre. Alors, ça, je me pose des questions vraiment ici sur qui a décidé et comment à Téhéran de permettre à un avion, aux avions en général d'ailleurs, de décoller de Téhéran au même moment où
il lançait une attaque
contre l'Irak. Alors ça, c'est déjà un problème, mais c'est sûr que pour la diplomatie iranienne, là, c'est un œil au beurre noir. Oui, il n'y a pas que le Canada, il y en a d'autres qui vont exiger des comptes à rendre.
Oui.
Et puis, je terminerai, si vous me permettez, en disant que ça risque de fragiliser même la situation à l'interne en Iran. Ce qu'on n'a pas évoqué, parce qu'avec le nombre d'Iraniens qu'il y a dans cet avion, tout ce que j'évoque comme incompétence là, ou comme problème de gestion, imaginez-vous, il y a pas mal de questions qui vont être posées aussi à l'interne en Iran, et ça va fragiliser un petit peu le régime. Ça,
oui.
ça peut avoir des grosses conséquences, en fait, si je peux me permettre.
Absolument, Charles-Philippe David. En tout cas, évidemment, les prochaines heures vont nous apporter plus d'informations. On verra si cette hypothèse bien informé, que de même Newsweek, c'est quand même un magazine qui reste très réputé, avec une forte crédibilité journalistique.
Oui.
Si tout ça se confirme, ça va avoir bien sûr des suites. On en reparlera, Charles-Philippe David. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire Raoul Dandurand. À la prochaine.
À la prochaine et bonne journée à tous.
Merci. On s'en va rejoindre maintenant un ancien enquêteur au Bureau de la Sécurité des Transports du Canada, André Turin. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Drainville.
Wow! Là, je veux savoir, M. Turin, je ne sais pas si vous avez déjà enquêté là, une histoire comme celle-là. Là, ce qu'on savait, là, c'est que les boîtes noires étaient endommagées. Ça a été confirmé. Là, au moment de l'écrasement de l'avion, les boîtes noires ont été endommagées.
Oui.
Est-ce que c'est normal que des boîtes noires soient endommagées? De façon générale, elles sont supposées être capables de prendre à peu près n'importe lequel choc, n'est-ce pas?
Je l'admets, mais est-ce qu'ils sont endommagés au point qu'elles ne peuvent pas être lues ou en fait de faire un download des données de ces boîtes noires? Parce que dans bien des cas, c'est qu'il y a moyen d'avoir accès aux pièces composantes informatiques, digitales, pour être capable de les remettre dans une boîte noire fonctionnelle et après ça, de faire les lectures. Il y a beaucoup, beaucoup de mécanismes en place dans l'électronique qui permet de lire des boîtes noires, à moins qu'elles soient complètement désintégrées, ce qui me surprendrait.
Oui, là, ce qui est rapporté jusqu'à maintenant, là, puis là, je fais abstraction de la toute dernière information là, sur la destruction par un missile, mais ce qui a été rapporté, c'est que les deux boîtes noires ont été récupérées, elles sont endommagées, et il y aurait une partie des données qui aurait été détruite.
OK. Une partie des données qui auraient été détruites.
Alors là, il faudra voir lesquelles, oui. évidemment, oui. et lesquelles on oui. peut récupérer. Et est-ce que les données qu'on peut récupérer vont nous permettre de nous éclairer ou même de confirmer la thèse du missile?
Oui. OK, regardez, j'ai enquêté dans le cas de Swissair où est-ce qu'il y avait une implication de la Gendarmerie royale du Canada. Donc, l'agence d'enquête qui était le BST pour le Swissair en 1998, Peggy Scove, la GRC était l'agence, on va dire, policière, mm-hmm. qui a surveillé tous les gestes et mouvements de tous les enquêteurs pour s'assurer que tout était documenté de façon factuelle.
Oui.
Et si on avait des notes à faire, soit sur les boîtes noires ou chacune des composantes, la GRC avait la main dessus. Dans le cas de l'explosion d'un 747 aux États-Unis sur la côte Est, le FBI avait la main sur l'agence d'enquête, le NTSB à l'époque. Dans le cas présent, OK, on va reparler de Ukrainian Air.
Oui.
Si on parle, OK, M. Garneau hier a indiqué que l'appareil, ils ont perdu le signal de façon catastrophique, je dirais.
Le ministre Garneau, là, vous dites. Oui, le ministre Garneau, oui.
Je m'excuse.
Oui, oui.
À 8000 pieds. Donc, à 8000 pieds, le système de transpondeur qui émet le numéro du vol, la destination, son parcours, a été complètement détruit et qui semblerait être le moment où est-ce que l'appareil s'est désintégré. Là, il ne faut pas partir avec la thèse du missile. Il faut partir avec une enquête par des agences d'enquête spécialisées.
Oui.
Et on pourrait dire le survol par des agences légales pour bon. Être capable de déterminer est-ce qu'il y aurait un acte criminel.
Monsieur Turin, là, j'ai un pilote de ligne là qui m'écoute là et à qui je veux passer le micro. Mais juste avant d'aller à Jean Serra, on s'entend là-dessus, Monsieur Turin, qu'avec ce qu'on entend, vous, ancien enquêteur au Bureau de la sécurité des transports, il faut que nos enquêteurs puissent se rendre là-bas. On s'entend, là, il y a plusieurs dizaines de victimes qui sont canadiennes. Oui. Déjà que le Canada voulait pouvoir participer à l'enquête, là, il faut absolument que les Iraniens nous laissent rentrer, là.
Bien, il y a une entente de l'OACI qui s'appelle l'annex 13 qui permet normalement au Canada, le fait qu'on a un grand nombre de passagers canadiens, permet au Canada d'être observateur. OK? Ça, ça rentre, on pourrait dire, dans la loi au niveau du transport aérien, au niveau du monde international.
D'accord.
Le premier point est le Canada a certainement appliqué pour être capable d'être observateur. Dans le deuxième point, c'est que le Canada a certainement présenté leur point à l'effet qu'ils ont toutes les compétences et connaissances et habiletés au niveau expertise internationale pour faire ce genre d'enquête-là.
OK. Donc, normalement, ils devraient nous laisser rentrer. C'est ça que vous dites, là. Normalement, ils devraient nous laisser rentrer. OK, André oui. Turin, je rappelle, vous avez été enquêteur au Bureau de la sécurité des transports du Canada. Merci.
Ça fait plaisir. Merci.
Et là, on va aller rejoindre Jean Serra, qui a été longtemps pilote avec Air France, qui est maintenant expert sur les questions d'aviation. Bonjour, Jean Serra.
Oui, bonjour à tous les amis canadiens.
Alors, écoutez, depuis que cette affaire-là est survenue, depuis que ce drame est survenu, on trouvait que les circonstances de l'écrasement étaient étranges. La thèse du missile, avec les informations que nous avons, la thèse du missile vous semble vraisemblable, vous semble crédible?
Elle est crédible. On est vraiment sur du 50-50. Est-ce qu'il s'agit d'un ce qu'on appelle un pompage moteur, c'est-à-dire explosion du moteur qui aurait pu abîmer l'aile, et si bien que le pilote n'a pas pu récupérer l'avion? Est-ce qu'il s'agit d'un missile? Il y a un point qui est important. L'expert vient de parler du transpondeur. Bon, je vous rappelle, le transpondeur, c'est un boîtier qui est à bord de l'avion, qui envoie un message qui est reçu par le contrôleur aérien. Le contrôleur aérien, sur l'écran, il voit que cet avion s'appelle de tel nom, qu'il est à telle altitude, qu'il se déplace à telle vitesse. À un moment donné, le transpondeur s'éteint. Pour quelle raison? On ne sait pas,
ouais.
Mais il est au bout d'une trajectoire. Il se trouve que sur le fameux site Flight 24, il y a l'enregistrement de la trajectoire qui arrive au même endroit. Et l'avion, lui, il s'est crashé avant ce point-là sur la droite, ce qui voudrait dire qu'il a commencé à virer par la droite pour revenir vers l'aéroport. Maintenant, est-ce qu'il a viré par volonté du pilote ou est-ce qu'il a eu un virage engagé parce qu'il avait perdu une aile? Ça, c'est impossible de le savoir à présent. En ce qui concerne les boîtes noires, ce qui est très important, c'est que les boîtes noires ont bien sûr évolué comme les avions. Avant, c'était des bandes magnétiques. Maintenant, ce sont des enregistreurs qui sont sur des cartes électroniques, informatisées. Il y a bien sûr, je vous rappelle, deux boîtes noires.
Oui.
Une, elle enregistre tous les bruits dans le poste, y compris les échanges radio, les discussions entre le pilote et le copilote. La deuxième, elle enregistre tous les paramètres techniques. Bien évidemment, si on en trouve une des deux qui fonctionne, et c'est pas la boîte noire, qui, même si elle est abîmée, c'est pas grave, c'est la carte qui est à l'intérieur. Cette carte, on va la sortir, on va la mettre dans un lecteur. Alors bien évidemment, les Iraniens ne voudront pas que ce soit les Américains qui lisent la carte, mais il y a d'autres pays qui ont des lecteurs, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, donc ils vont envoyer la carte pour être lue.
Vous pouvez être sûr que le Canada, on est très bien équipé en la matière. J'en serai, il me reste très peu de temps.
Le Canada aussi.
Il me reste très peu de temps. Si le vol a été frappé par un missile, est-ce que la boîte noire va nous le révéler?
La boîte noire va dire, par exemple, qu'il y a une dépressurisation explosive de la cabine. Donc, dépressurisation explosive de la cabine veut dire qu'il y a quelque chose qui a heurté cette cabine. On peut, par des éléments concrets, vraiment réels, qui sont enregistrés, pouvoir voir que, par exemple, il y a eu une rupture de la cellule parce qu'elle a été impactée par un projectile. Donc ça permettrait de lever le doute. Oui, effectivement.
D'accord. Je rappelle que vous avez été longtemps pilote avec Air France. Vous nous rejoignez comme ça à la toute dernière minute. On l'apprécie, Jean Serra. Merci.
Et puis surtout, beaucoup d'amitié à tous les Canadiens qui ont été touchés.
Et voilà. Oui, vous faites bien de nous le rappeler. On est effectivement très, très touchés. Merci, Jean Serra. Des Canadiens d'Edmonton, ils sont très, très touchés là-bas. Il y avait des professeurs à l'Université de l'Alberta. Ils sont en deuil là-bas. Il y avait des Canado-Iraniens également de Toronto et aussi de chez nous, à Montréal. Je veux juste, avant d'aller à la pause, là, vous dire que c'est toujours selon Newsweek, là, il y a des images qui ont commencé à circuler qui montreraient des fragments de missiles Thor M1 qui auraient été trouvés dans la banlieue de Téhéran. Et ces missiles Thor M1, c'est des missiles de fabrication russe qui ont été bel et bien livrés à l'Iran. Donc, la thèse du missile qui aurait abattu donc cet avion civil, ce Boeing, se confirme de plus en plus. Si on a plus d'informations dans les prochaines heures, vous pouvez être certain qu'on va y revenir. C'est épouvantable, cette affaire-là.